Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés. Et puis peut-être, on ne sait pas si ça durera toujours. Si on se retrouvera une autre fois. Mais au moins ce soir, on se retrouve. Allez, même s'il nous manque une personne que nous aimions, Anne, qui a été rappelée dans le royaume, où maintenant elle est bien heureuse. Eh bien, pour introduire cette retraite, j'ai trouvé un texte dans Ressources chrétiennes qui m'a semblé bien convenir. Et voici ce texte. Dans notre monde actuel, brisé par toutes sortes de désespoir, rongé par l'inquiétude, et dont nous voyons les symptômes dans tous les domaines de la vie moderne, aussi bien politique que social, artistique et culturel, malgré les multiples prophètes de malheur qui annoncent des menaces sans nom, malgré les révolutions violentes et les anarchies subversives, il existe encore une joie, une paix et une espérance authentique. Notre espérance est d'une telle certitude qu'elle ne peut pas être réprimée. Et pour l'obtenir, il faut nous placer toujours et à nouveau à l'ombre de la croix, du calvaire, et aussi bien de la lumière de la résurrection de Pâques. Le soir de sa première apparition à ses disciples, Jésus leur montrait ses mains percées et toutes ses plaies. Celle-ci était la marque de son identité. Celui que les disciples avaient vu mourir 3 jours auparavant, il était là maintenant, devant leurs yeux, ressuscité dans sa pleine humanité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons espérer. Car le Christ a été crucifié, il est mort, afin d'être à notre place, notre péché. Il a brisé notre aliénation et nous a réconciliés avec Dieu. Il a mis fin à notre désespoir. Ressuscité et monté au ciel, il est en même temps notre Seigneur et notre serviteur. Notre victime est le grand prêtre, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Nous ne plaçons pas notre confiance en un esprit désincarné, mais en l'homme de chair et de sang. C'est ce même homme qui tient dans sa destinée, dans sa main, la destinée de nous tous et de l'univers entier. S'il n'avait été qu'un esprit désincarné, l'évangile que nous prêchons s'il n'avait été qu'un esprit simplement désincarné, ni substance, ni actualité. Par contre, nous pouvons maintenant vraiment croire que notre espérance est sûre et solide, l'encre même de notre âme. Désormais, nous sommes liés à nos amarres. Rien ne peut nous arracher ni nous séparer de lui. Eh bien, cette expérience qui nous anime est riche de diverses façons. Et voici quelques aspects de son action. Premièrement, il agit dans le présent de notre existence. Elle rencontre des réalités matérielles sans les nier. Elle les confronte avec les réalités spirituelles qui lui sont propres. Ce faisant, elle travaille à partir des réalités du monde d'aujourd'hui. Sa première parole est de dire que ce monde d'aujourd'hui n'est pas le sien.
Tu dis elle, quand tu dis elle, tu parles de
L'espérance. Il peut être différents aspects de l'espérance. Elle porte en elle un autre monde. Elle veut nous arracher l'esprit à la domination absolue du monde présent. Elle lui révèle sa nature spirituelle, ouverte au monde spirituel. Deuxièmement, elle est la cause d'un conflit. L'espérance, qui refuse d'être aliénée par le monde matériel, de son orgueil à ne vouloir que lui, rappelle à l'esprit qu'il est né de Dieu et qu'il est contraint de se manifester dans la chair du monde actuel. En fait, il le domine et sait s'en affranchir. L'espérance révèle le pardon. Elle s'appuie sur l'évangile de Saint Jean. Jésus, mourant, dit au larron repentant que ses péchés sont pardonnés. Elle nous donne donc l'assurance que le pardon est pour tous, même pour le plus grand pécheur. Elle annonce aussi une vie nouvelle. En Jésus, la vie d'aujourd'hui n'a plus le sens qu'elle avait avant, car celui qui adhère à Jésus trouve en lui une vie nouvelle, reçoit la plénitude de sa vie et un monde nouveau. Cette parole est pour nous une force qui dirige notre espérance vers les réalités d'en haut, comme un regard qui se prolonge au-delà de la mort, vers la vie nouvelle et éternelle. Et Jésus donne cette espérance à qui la lui demande dans la foi de la recevoir. L'espérance est aussi l'espérance du bonheur. Cette espérance nouvelle, objet de notre espérance, doit nous apporter le bonheur. Jésus remet les disciples avec lui dans le giron du Père. Et l'offrande de Jésus a été de restaurer la vie pour en faire une vie de bonheur, sans laquelle la vie actuelle serait un désastre sans fin. Cette vie de Jésus est un don gratuit, généreux, qui est acquis par son sacrifice. L'espérance est l'espérance de ce bonheur. La condition unique est de recevoir cette espérance comme un don et de croire en Jésus qui l'accorde. L'espérance est aussi un objet de désir, puisqu'il y a une autre vie après la mort terrestre. L'espérance est désir. Celui qui n'éprouve pas le désir de recevoir cette vie et qui est insensible à ce qu'elle apportera de bonheur se met lui-même en contradiction avec lui-même. car Dieu nous avait créés dès avant la fondation du monde pour être saints, immaculés en sa présence, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus. Cette programmation que le Seigneur avait faite pour nous signifie que notre espérance est enracinée dans la volonté du Père de faire de nous des enfants d'adoption pour une vie de bonheur sans fin. Et cette volonté divine est inscrite en chaque personne au plus profond de son être. On peut dire que l'espérance est un don de nature. Et la refuser, c'est se condamner soi-même. Refuser ce don que nous fait le Seigneur, c'est se contredire, c'est nier le sens de notre existence. C'est peut-être le plus grand péché de rejeter la bonté de Dieu qui propose une félicité éternelle. En la négligeant, en la méprisant, l'homme perd ce qui est le plus intime et précieux en lui-même, l'espérance de connaître la plénitude du bonheur. Par contre, celui qui est conscient de la valeur du don que Jésus lui fait, ouvre alors joyeusement son cœur et sa volonté et son intelligence à acquérir ce don gratuit du bonheur. C'est par la force de l'espérance qu'il peut tourner tout son être vers l'avenir, qu'il comblera ce désir de l'attente actuelle du royaume et fait de cet homme de l'espérance, un désirant. Le désirant, c'est un homme de l'esprit dont parle l'Apocalypse. L'esprit l'épouse dise bien que celui qui s'entend, qui entend, dise bien que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 16. Cette eau vive, promise, nous est déjà offerte dans l'Eucharistie. L'espérance en crée le désir. Elle est en même temps la foi dans les promesses du Christ de la vie éternelle. L'espérance demande une conversion, de passer des biens de la terre à ceux du ciel. Cette conversion, nous savons, est exigeante, difficile, parce qu'on le veuille ou non, on est très lié à la terre. Notre corps lui-même a été construit par Dieu à partir de matériaux terrestres. Les sacrements sont aussi construits avec de la matière, de l'eau, du pain, de l'huile et du vin. Ces éléments qui proviennent de la création et qui subiront un changement dans l'Eucharistie. Eh bien, ce sera le dynamisme de l'espérance qui agira comme une force de dépassement du monde actuel pour devenir offrande eucharistique du monde nouveau. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui en comprend ce qu'elle annonce d'extraordinaire, celui-là éprouve le désir et le don du bonheur. Certes, il est toujours dans ce monde, mais son esprit a quitté ce monde pour rejoindre le Christ, pour s'unir à lui. Il est devenu tout entièrement désir. Et pour cet homme désirant, les biens de la terre ne l'intéressent plus. Certes, ils nous ont aidés à vivre un certain temps, en attendant que se réalisent les promesses de la vie éternelle, fondée sur la parole et la vie du Christ. L'espérance n'est pourtant pas la vision, mais elle y participe déjà d'une certaine façon, en faisant élever le regard plus haut, en lui faisant voir ce qui est encore invisible. La foi est la puissance qui manifeste l'invisible, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, elle est la garantie des biens qu'on espère. De son côté, l'espérance aide cette vision de l'invisible, puisqu'elle est tendue vers l'avenir. Elle ne recherche pas seulement la définition, mais la possession. Alors, l'espérance est une expérience personnelle du Saint-Esprit. Elle demande la prière du Saint-Esprit qui ouvre l'esprit à la vision de l'invisible. C'est lui qui donne l'espérance d'être une vertu théologale qui n'a d'autre nature que de tendre l'esprit vers les réalités du royaume. Et bien que les réflexions que nous allons faire au cours de ces jours relancent notre désir d'union à Dieu par le moyen de l'espérance qui ne déçoit pas. Voilà ce que j'ai écrit pour l'entrée.